Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine.
Il a l'air très con, Léa. Léa, ne t'énerve.
Dans Écoutons-nous, l'émission de coaching mental de Sud Radio, vous le savez maintenant. Bienvenue également à ceux qui se connectent sur la page Facebook Live de Sud Radio et qui choisissent de regarder l'émission en images et avec le son. Bien sûr, ce soir, nous sommes en libre antenne, donc appelez dès maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et venez me parler de vos doutes, de vos difficultés. Ensemble, nous chercherons des solutions. Nous ouvrons tout de suite l'émission avec Maria, qui nous a rejoint au Standard de Sud Radio. Bonsoir,
oui,
Maria.
Bonsoir, Muriel. Merci de m'accueillir.
Et oh, mais bienvenue. C'est un plaisir.
C'est gentil. J'aurais souhaité pouvoir bavarder avec vous. Je vous ai eu au téléphone il y a quelque temps. Je vous ai parlé de notre fille cadette avec qui nous avons des difficultés relationnelles avec mon mari. Et vous m'aviez conseillé de parler avec notre gendre de un petit peu des difficultés que nous avions avec notre fille, enfin voilà. Et je voudrais vous dire un petit peu où j'en suis, parce que la situation, elle ne s'est pas améliorée, elle se referme, et j'aimerais bien avoir votre conseil.
D'accord.
Justement.
D'accord.
Poser le cadre. Donc, pour poser le cadre, avec mon mari, nous avons 3 enfants, 5 petits-enfants, et depuis quelques années, nous nous sommes beaucoup investis à nous occuper de nos enfants et de nos petits-enfants. Quand je dis nos enfants, pas nos enfants, mais nous étions investis toutes les semaines, nous nous occupions de nos 5 petits-enfants, sachant que nous sommes à 100 km de chacun de nos enfants, de nos 3 enfants.
Oui.
Donc, c'était beaucoup de voitures, 600 km par semaine. On avait le bonheur de voir nos petits-enfants régulièrement et on a beaucoup apporté. Ça a été super. Mais on était très fatigués. Et quand le confinement est arrivé, le premier confinement, on se rendait compte avec mon mari que l'année suivante, c'est-à-dire là, depuis le mois de septembre, on n'allait pas continuer le même rythme parce que notre santé et nos forces ne nous le permettaient plus.
Oui.
Donc, cet été, nous avons envoyé, nous avons pu expliquer à nos enfants que l'année qui commençait, c'était le mois de septembre, nous allions changer de rythme, que nous pourrions nous occuper de nos petits-enfants pendant les vacances, mais que pendant l'année, sauf urgence, nous ne pouvions pas tenir le même rythme qu'avant. Deux de nos enfants ont très bien réagi et ça se passe très bien avec eux. Et pour notre fille cadette, donc c'est très douloureux, très compliqué. Elle est très très en colère contre nous, elle nous en veut. Et en fait, si vous voulez, elle comprend qu'on ne puisse pas continuer maintenant le même rythme, mais on sent qu'elle a un passé, par rapport au passé, vous voyez, comme si dans son enfance, il y avait des choses qui n'avaient pas été digérées. Et elle a une colère contre nous. Et aux dernières vacances, les vacances d'automne, donc qui correspondaient au moment de la Toussaint, juste avant le deuxième confinement, on a proposé de garder notre petit-fils, qu'il nous l'amène, puisqu'il y a un petit garçon de 4 ans, qu'il nous l'amène, qu'on puisse le garder un petit peu, mais ça n'a pas accordé, disons, avec leur emploi du temps et puis leur vie. Et elle a demandé à venir nous voir. Elle est venue nous voir un samedi après-midi, après son travail, et pendant 2 heures, 3 heures, ça a été des reproches. Avec mon mari, on s'était dit, on va écouter ce qu'elle a à nous dire et on ne va pas répondre, Alors, nous avons tenu le coup, mais au bout de 2 heures, 2 heures et demie, mon mari a essayé de lui faire comprendre des choses parce qu'elle est extrêmement fusionnelle avec son petit garçon. Nous, ça nous inquiète. Parce que on trouve que on comprend qu'on soit proche de son enfant et que c'est bien et que c'est normal d'être proche de son petit, mais c'est vraiment très excessif. Et quand on essaye de lui expliquer, elle nous tombe dessus à bras raccourcis en nous disant que nous, on n'est pas des bons parents, qu'on n'a pas été des bons parents, qu'elle n'a pas, elle nous fait beaucoup de reproches. Et nous, on sait bien qu'on n'a pas été des parents parfaits, mais on sait aussi qu'on a été des gentils parents, qu'on a fait tout ce qu'on a pu.
Oui, voilà. Bien sûr. Maria, ce qu'elle vous reproche, c'est plus hier ou c'est aujourd'hui ?
Ah, c'est hier, parce qu'à un moment, quand elle était sur
le... tout le passé, oui.
Oui, parce que quand elle était sur le parking en partant, parce que je vais vous dire, ça s'est très mal passé entre ma fille, notre fille cadette et mon mari s'est fâché, parce que ça a été très, ça a été crescendo, et je n'ai pas réussi à rattraper le coup. J'ai essayé de, stopper l'escalade.
Maintenir le dialogue, quoi.
Je n'ai pas réussi, parce que c'était un ping-pong entre eux, et ça a fini qu'ils se sont fâchés tous les deux. Mon mari a mis à la porte. Elle a dit, personne ne me met à la porte, je ne pars pas. Il a dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui pars. Il est allé se promener, elle est partie tranquillement chez elle après. Mais vous dire que ça s'est terminé sur un clash. Et on en est là. Et quand sur le parking, quand je lui dis, mais écoute, ma chérie, tu nous as expliqué, les souffrances que tu as eues, ce que tu nous reproches quand tu étais petite, tu connais notre histoire, on en a parlé, tu connais le pourquoi du comment, on a pu partager et expliquer à nos enfants quand il y a eu des choses qui n'allaient pas, voilà. Et avec mon mari, on a fait de la thérapie, aujourd'hui, on a un bel équilibre, on va bien. Et depuis des années, mais elle reste bloquée sur le passé, et je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu sois autant en attente de nous pour s'occuper de ton petit garçon, parce que tu nous fais tellement de reproches. Elle m'a dit, mais c'est que vous êtes des grands-parents super. Voilà. Donc
oui,
c'est très étrange. Ouais, ouais. C'est très étrange. Et voilà. Alors là, j'en suis que j'ai reçu un SMS de notre fille parce que depuis les vacances d'automne, donc mon mari et notre fille cadette n'ont pas communiqué. Moi, je communique un petit peu par SMS et j'avoue que je ne sais pas comment elle m'a envoyé dernièrement, dimanche dernier, un petit message me disant que pour le 24 décembre, je pouvais aller chez eux. Que je pouvais même dormir. Oui, que moi.
Vous, mais pas votre mari.
Oui, et que pour voir le petit, on pouvait se donner rendez-vous à mi-chemin entre chez elle et chez nous pour que le petit me voie. Alors, j'en suis là, entre les deux, je dirais, entre mon mari et notre fille. Voilà la situation à laquelle je suis. Maintenant, Muriel, je vous écoute.
Écoutez, Maria... Je me rappelle très bien notre première conversation. Hein. À travers ce que vous me dites, Maria, j'ai le sentiment que, ok, votre fille vous reproche de ne pas avoir été des parents parfaits.
Oui.
Cela a été posé et c'est très bien. C'est juste dommage que ce ne soit qu'un sens unique, c'est-à-dire elle vous fait tout un tas de reproches, mais elle n'écoute pas d'un autre côté ce que vous avez à dire. Ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes bien tous les deux, votre mère et vous.
Ah oui.
Vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous avez fait un vrai travail sur vous.
Oui.
Vous avez face à vous trois enfants, deux avec qui ça se passe bien, une avec qui ça se passe mal.
Oui.
Le sentiment que j'ai, c'est qu'elle est quand même très égoïste.
Oui, elle est enfermée dans quelque chose là, oui. Oui, tout à fait.
Ben, très centrée, si vous voulez, vous ne pouvez pas la changer, Maria. Il n'y a que elle qui peut, à un moment, décider de se changer elle-même, c'est-à-dire de commencer à faire... aussi un travail sur elle, un travail de compréhension, un travail de pardon sur elle et sur vous. Je ne sais pas ce qu'elle vous reproche, mais en tout cas, il y a ce travail à faire. Et vous
j'ai été très dépressive quand elle est née, voyez, j'ai été très dépressive et elle en a souffert, ce que je comprends, mais complètement. Et on en a parlé et elle sait le pourquoi du comment. C'est une jeune femme de 34 ans aujourd'hui, donc j'ai pu parler en adulte, voyez. Et je lui ai même dit combien j'étais désolée, que je lui demandais pardon pour la souffrance qu'elle avait eue. Je ne peux pas faire plus.
Bah écoutez, moi je pense que quelque part, il y a un transfert qu'elle fait sur son enfant. Elle ne peut pas vous reprocher d'avoir été des parents exécrables et d'être des grands-parents géniaux et de vous reprocher de ne pas bien vous occuper de son petit enfant. Je pense que votre fille a un souci et qu'elle doit, elle doit réussir à le prendre à bras-le-corps.
Oui.
Vous ne pouvez que l'encourager, attendre qu'elle soit prête. De toute évidence, elle ne l'est pas.
Oui.
Ça vous oblige, vous, Maria, à faire un travail sur vous par rapport à votre petit-fils.
Oui, j'ai cette chance, Muriel, que j'ai réussi à le faire. Parce qu'il y a quelques années, avec notre fils, on a eu un petit... C'est pas comparable, c'est jamais comparable. Chaque histoire est singulière. Mais notre petit-fils, du côté de notre fils, nous avons le bonheur d'avoir trois petits-fils merveilleux aussi. Tous les cinq, on adore nos cinq petits-enfants. Et on vit de très jolies choses avec les cinq. Et donc, l'aîné du fils de notre... chez notre fils, était très, très attaché à nous. Et ça avait posé un gros problème de jalousie avec la maman. Et donc, il a fallu que j'apprenne à me détacher. Et ça, je l'ai fait, ce chemin. Donc, vous voyez, pour notre petit-fils, chez notre fille cadette, je dirais, j'avais déjà une partie du chemin qui était fait.
Oui.
Voilà. Et j'ai continué à le faire parce que je me suis dit, mais ça recommence. Et le problème, c'est que je suis tombée gravement malade après avoir... Parce que pendant 2 ans, j'ai très peu vu nos petits-enfants du côté de notre fils. Mais c'est tout rentré dans l'ordre. Et alors maintenant, c'est des relations merveilleuses avec notre fils, notre belle-fille et les 3 petits.
Oui.
Vraiment.
Mais je crois que vous êtes des parents très pédagogues, c'est-à-dire que vous vous donnez le temps à vous de comprendre l'évolution de chacun de vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, oui.
Leur donner le temps de comprendre qu'être parent, c'est
avec
pas facile.
Avec amour.
C'est pas simple.
Avec
exactement.
Amour. Oui.
Exactement. Maria, vous savez, je vous garde avec moi.
Oui.
Je vous retrouve dans quelques secondes parce que j'ai envie qu'on continue cette conversation.
Merci beaucoup, Muriel. Je veux bien. Merci.
Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine.
Et n'oubliez pas de me retrouver en direct sur la page Facebook Live de Sud Radio ou d'appeler au 0826-300-300. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Sébastien, à Catherine et à Barnard qui justement me laissent des petits mots sur le Facebook Live. Nous sommes avec Maria qui nous explique les difficultés qu'elle rencontre avec sa fille cadette qui trouve que finalement elle ne s'occupe pas ni elle ni son mari suffisamment bien de leur petit-fils. Très sincèrement, Maria, c'est la deuxième fois que nous parlons. Je trouve que vous avez une approche qui est, comme je vous le disais juste avant, très pédagogue. Vous donnez à vos enfants le temps de comprendre qu'être parent, c'est compliqué. C'est compliqué et je trouve, moi, que vous mettez bien en place les choses. Votre fille cadette n'est pas prête. Elle est encore trop dans le passé, Maria.
Tout à fait.
Vous ne pouvez pas l'obliger à travailler sur elle. Vous ne pouvez qu'attendre qu'elle le soit. Et le fait que vous ayez déjà fait ce chemin avec votre fils, parce que c'est vrai que ça va vous imposer peut-être une souffrance, c'est de peut-être voir un peu moins votre petit-fils.
Oui.
Quelques temps. De toute façon, elle reviendra vers vous, parce que si j'ai bien compris quand même, elle a besoin de vous.
En tous les cas, la porte sera toujours ouverte. Il n'y a pas de problème, Muriel. C'est évident. Et moi, je pense que j'ai compris, moi, qu'en restant très, très, très discrète, c'est un acte d'amour parce que je lui laisse temps de mûrir.
Oui, absolument. Un acte d'amour.
Comme ça.
Vous avez raison. Hein.
Et j'ai une question que je voudrais vous poser, Muriel.
Oui.
Parce que par rapport à ce petit SMS que j'ai reçu dimanche, nous étions en train de nous promener avec mon mari. Vous voyez, je ne l'ai même pas dit à mon mari parce que sinon je me suis dit, on va parler de ça. Et nous, on était dans la nature, c'était un moment de paix, de tranquillité. Mmh. Et je me suis dit, je vais prendre le temps de réfléchir. Et donc, je me pose la question. Donc, j'aurais presque envie de lui dire, moi, parce que le 24 au soir, nous sommes avec mon mari, il est hors de question que j'aille rejoindre notre fille et que je laisse mari tout seul. C'est évident. Et le 25, notre fils viendra nous rejoindre avec les 3 petits parce qu'on se partage avec nos 3 enfants, avec les autres belles familles pour justement respecter les normes sanitaires, pour ne pas être trop nombreux. Et compte tenu du contexte, cette année, avec notre fille cadette, j'allais dire, c'est mieux comme ça. Donc elle sera dans la belle famille de son compagnon, le 25, et je me demandais si je lui écrivais un petit SMS, et je voudrais avoir votre avis justement. Je me disais, voilà, le 24 au soir, nous avons prévu une petite soirée, ton père et moi, en amoureux. Et le 25, voilà, nous serons dans nous partagerons Noël cette année. Nous savons que tu seras dans ta belle famille et nous partageons les uns les autres pour ne pas être trop nombreux compte tenu de la crise sanitaire. Et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, enfin quelque chose comme ça. C'était le fait de dire que je passais la soirée avec son père. Je me dis, est-ce que c'est trop de lui dire, nous avons prévu de passer, ce qui est vrai, une petite soirée en amoureux tous les deux, et le lendemain de fêter Noël en famille.
C'est tout à fait entendable, hein, Maria. Je rajouterai peut-être quelque chose, vous pouvait peut-être ouvrir une porte, c'est de proposer, puisque vous faites une petite soirée tous les deux en amoureux, mais que ça vous ferait plaisir malgré tout de voir votre petit-fils, d'avoir un petit moment via Zoom ou via un réseau social.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes sur Messenger, sur WhatsApp.
Oui, oui,
sur WhatsApp. Et de dire, oui. On pourrait se faire un petit coucou et voir votre petit-fils.
Oui.
À un moment donné dans la soirée, ce qui fait que vous n'y allez pas, vous le voyez quand même, vous partagez un petit moment, votre mari est près de vous.
Oui.
Alors, votre fille pourra toujours décider de vous dire non, dans ce cas-là, si tu ne viens pas, on ne fait rien.
Oui, ça lui appartient. C'est une très bonne idée.
Et peut-être vous pouvez compléter en même temps, ça vous fera plaisir, j'imagine, tous les deux de le voir.
Je suppose qu'on va être émus.
Probablement. C'est le premier Noël que vous ferez où vous serez juste tous les deux sans vos enfants ?
Ah, alors, depuis des années, depuis que nos enfants sont en couple, soit le 24, soit le 25, nous sommes avec nos enfants et l'autre, sur les deux dates, on va dire, nos enfants sont aussi dans leurs belles familles respectives. Donc ça, on l'a mis en place tout de suite, depuis maintenant une dizaine d'années. Pour mon mari et moi, c'est un bonheur d'être tous les deux et de passer une jolie soirée tous les deux. C'est pas un problème.
D'accord.
Parfois c'est le 24, parfois c'est le 25, voilà.
Ok. Oui, il y a beaucoup de parents devenus grands-parents qui fonctionnent de cette façon-là. Vous ne serez pas les seuls.
Mais
Maria, je crois que proposer d'organiser une petite visioconférence.
Ouais, très jolie idée d'avoir un petit échange de quelques minutes pour s'embrasser et dire qu'on pense les uns aux autres et qu'on s'aime.
Exactement.
Voilà. Et la balle sera dans son camp. Si elle dit non, moi je respecte. Voilà.
Oui.
Il n'y a pas de problème. Et c'est pas grave. Il faut laisser du temps au temps. Et moi je suis sereine et je suis tranquille sur ce terrain-là parce que je sais que le plus important c'est qu'elle se sorte de ce blocage dans lequel elle est. Voilà.
Ah oui. Et pour vous de préserver aussi la relation avec votre mari.
Ah mais absolument. Et je sais aussi que c'est le plus c'est un beau chemin de vie que je lui montre là.
Oui, absolument.
Pour elle, pour l'avenir.
Absolument.
Voilà.
Oui, je pense. De toute façon, elle fera un jour le rapport entre tout ça.
Elle avancera, oui.
Je souhaite vraiment que, d'abord, que votre mari accepte que d'avoir une fille un petit peu rebelle comme ça, un peu compliquée à gérer. J'espère que les mots qui ont été partagés n'ont pas été au-delà de ce qui était entendable pour ne pas casser le lien entre eux.
Oui, je pense qu'effectivement, je pense qu'elle est intelligente, elle est sensible et ça va faire son chemin. Et mon mari, de son côté, fait un travail en ce moment sur le plan émotionnel en EMDR, parce que j'allais dire, ils se ressemblent tous les deux. Ils se sont renvoyés en miroir leurs souffrances respectives. Vous voyez, moi j'ai assisté à ça à côté et j'ai rien pu faire. Parce que quand c'est comme ça, ça part, je dirais, c'est comme ça, c'est très puissant.
Ils étaient fusionnels, tous les deux, lorsque votre fille était plus petite ?
Alors, fusionnel, ce n'est pas le mot, mais je pense qu'ils se ressemblent énormément.
Mm-hmm.
Je pense qu'ils ont des personnalités,
Leur caractère ?
Exactement, je pense, et c'est tout le problème, ils ont des caractères qui sont relativement identiques actuellement. Et je pense qu'ils ont un problème à surmonter, un peu le même, tous les deux actuellement, et que ça fait un clash, quoi.
Oui.
Moi, je ressens comme ça, moi.
Difficile pour vous d'être au milieu des deux.
Alors, justement, je n'y suis plus.
Ah, très bien, très bien.
Je suis sortie parce qu'il faut sortir des nœuds. Des sacs de nœuds.
Oui, absolument. Puis, voilà. Puis là, c'est vraiment leur relation à eux deux. Vous pouvez si aplanir, écouter les uns, écouter les autres, l'un l'autre pour faire tampon, sans prendre pour pas que ça vous perturbe, vous, à titre personnel.
Exactement.
Mais vous êtes finalement le lien, le tampon entre les deux.
Je suis à la fois le lien et j'essaye de ne plus être celle qui va rabibocher parce que je pense que c'est à eux de faire le chemin qu'ils ont à faire. Et moi, je ne veux plus avoir ce rôle de chercher à rabibocher quelque chose qui ne peut pas se rabibocher.
Oui.
Sans qu'un certain chemin soit fait.
C'est une très bonne approche, Maria. Vraiment, vraiment, je crois que vous êtes une fin femme, maman, pédagogue. Vous avez énormément de qualités.
Merci infiniment.
Je vous souhaite
Muriel.
Vraiment une belle continuation.
Oui,
Maria.
Moi je vous souhaite
très belles
fêtes. Plein de douceur aussi. Prenez bien soin de vous et puis de plein de douceur pour les fêtes de fin d'année. À vous et à toute votre
équipe.
Merci
sincèrement. Voilà. Je vous dis à très bientôt.
Merci.
Je vous embrasse.
Merci infiniment. Au revoir, Muriel.
Au revoir. Voilà, chers auditeurs, mais écoutez, tout de suite après Maria, c'est Alex qui nous rejoindra. Alex qui viendra nous parler d'un problème de voisinage. À tout de suite.
Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine.
Et c'est Alex que nous accueillons sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Alex.
Bonsoir.
Comment allez-vous Alex?
Alors moi ça va. Ça va bien, je me sens un petit peu frustré, c'est pour ça que je vous appelle, parce que j'appelle en fait parce que j'ai une amie, j'ai un couple d'amis dont je suis depuis longtemps amie avec la dame de ce couple, le monsieur du couple a un locataire, il a quelques biens et il a un locataire de longue date qui était ami de ses parents. Et donc, mon amie a rencontré cet homme avec qui elle s'est mise en ménage et a fait connaissance donc de ce locataire de longue date, ami de la famille. C'est un petit peu un mélange. Il y a pas vraiment d'étiquette sur cette tierce personne. Et en fait, ce locataire ami a fini par lui faire des avances ouvertement à mon ami. Et alors, pour vous situer un petit peu, mon ami a 35-40 ans et ce locataire a plus dans les 80-85 ans. Il y a une différence d'âge, mais aussi elle n'éprouve rien, n'a jamais rien laissé sous-entendre à cette personne. Et en fait, elle se retrouve dans une situation où son compagnon aujourd'hui lui dit mais laisse, c'est pas grave, ça fait pas de mal. Et puis il a plus toute sa tête. Et puis bon, il renie un petit peu les actes et la portée des actes et des mots de ce locataire qui l'agresse un petit peu entre guillemets, pas vraiment physiquement mais verbalement et dans les attitudes.
Oui, vous pouvez m'expliquer comment, Alex, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de, je sais pas, de mots qu'il ait pu dire ou de gestes qu'il ait pu faire?
Alors il a tenté de l'embrasser sur la bouche, qu'elle l'a repoussé un petit peu tardivement parce qu'elle n'envisageait même pas la possibilité de ce geste.
Ça existe, oui, donc voilà. Elle était surprise.
Voilà, exactement. Donc sur le coup, elle s'en est même excusée parce qu'elle ne comprenait pas du tout la situation. À la suite de ce geste, il serait allé voir son compagnon pour lui dire ta copine, elle est un peu légère, elle est un peu facile, méfie-toi. Du coup, il essaye de semer la zizanie, ayant beaucoup d'aplomb. Et ayant le côté on se connaît depuis toujours, je suis un ami de la famille, j'ai quand même une parole qui compte, et l'aspect un petit peu fragile de l'âge, de l'excusabilité parce que c'est un homme et que les hommes, on est encore dans un schéma très très classique patriarcal où un homme peut se tromper, un homme peut tenter des choses, un homme, vous voyez ce que je veux dire, on est dans ce schéma là
absolument,
voilà. Et donc il y a eu plusieurs gestes, plusieurs mots, enfin pas plusieurs gestes, pardon, plusieurs mots, plusieurs tentatives de semer un petit peu le chaos dans ce couple qui est qui a pas une grande histoire, hein, qui sont en couple depuis 4-5 ans. Mmh. Et donc il y a beaucoup de jalousie de la part de cette personne, et mon amie voilà, qui se trouve au milieu de tout ça, elle se retrouve un petit peu prise en étau entre cet homme qu'elle ne peut pas écarter de sa vie, parce que par ailleurs il a des bons côtés, hein, on n'est pas soit tout blanc soit tout noir, et il se rend des services, enfin il y a une proximité géographique puisqu'ils sont voisins, et il y a une proximité sociale puisque il y a des repas de famille où cette personne-là est invitée, ils oui, échangent des services par ailleurs, voilà, c'est un ami de la famille proche, voilà, qui n'est pas
C'est pas juste un locataire quand même.
Voilà, c'est ça. C'est pas quelqu'un que l'on peut pousser du coude et dire bon ben cette personne-là c'est fini. C'est pas non plus un membre de la famille, mais c'est quelqu'un quand même. Voilà, il y a des relations assez fortes, assez anciennes, et mon amie se retrouve dans une situation où elle le vit très mal, et elle voudrait plus de soutien de son compagnon, sans pour autant, alors voilà, ça la peine beaucoup parce que elle lui trouve, enfin selon de mon point de vue, hein, extérieur, elle lui trouve pas mal d'excuses sur le fait que il soit veuf depuis pas mal d'années, que qu'il soit un petit peu, enfin que ce cercle là soit leur seule famille.
Mais bien sûr,
voilà,
bien sûr.
C'est ça. Et puis elle est très très attentive aux autres, très bienveillante, toujours là pour écouter, toujours là pour vous recevoir avec un café chaud, quelqu'un de très sociable, qui fait tout pour s'intégrer et pour intégrer les autres. Et je trouve que lui a profité de cette porte ouverte. Et bon ben, il y a beaucoup de choses qui se sont engouffrées. Et moi, j'échange avec mon amie, elle m'en parle, elle endort un petit peu mal la nuit. Il y a des périodes où, bon, ben, elle prend sur elle, hein, de toute façon, mais il y a des moments où c'est plus difficile à accepter que d'autres.
Bien sûr, je voilà. comprends, Alex.
Et moi, j'aimerais l'aider.
Oui. Alors, éventuellement, vous pourriez, moi je vous recommanderais, si je l'avais directement, je lui recommanderais peut-être deux choses. La première, c'est de bien clarifier dans sa tête sa position vis-à-vis de cet homme. Parce que je pense qu'elle n'est pas bien parce qu'elle est partagée entre le fait qu'il lui fasse des avances. Donc, et au début, elle a été tellement surprise, ce qui est logique, elle a eu une réaction un peu entre deux eaux, je dirais, c'est-à-dire elle s'est un peu laissée faire avant de réagir. Ce monsieur a senti qu'elle ne fonctionnait pas dans son jeu, donc du coup, il a décidé d'essayer presque de lui faire du mal, puisqu'il ne pouvait pas lui faire du bien. C'est un comportement, je dirais, humain, à défaut d'être honnête. Donc je crois que pour elle, elle est partagée entre cet agacement probablement et le risque que cet homme peut avoir dans son couple, et les sentiments comme bienveillance qu'elle a envers lui quand même, parce qu'il est âgé, parce qu'il n'a pas beaucoup d'amis, parce qu'il fait un peu partie de la famille sans être de la famille, si je comprends bien.
Oui,
et
exactement.
Vous voyez le fait que dans sa tête, sa position n'est pas claire, c'est-à-dire que selon son attitude à ce monsieur, c'est s'il lui fait des gestes ou des mots qui sont des avances, de pouvoir poser clairement les choses. Écoutez, je te dis clairement les choses pour moi. Oublie, n'envisagez rien, ça ne sert à rien. et n'essayez pas d'abîmer mon couple parce que de toute façon, ça n'est pas possible. Il y a trop d'amour entre mon compagnon et moi. Enfin, vous voyez, que dans sa tête, les choses soient claires. Ça ne l'empêche pas d'avoir du respect et je dirais, envie de ne pas abîmer cet homme qui est sur sa dernière partie de vie. Mais sa position à elle doit être extrêmement claire. Et si dans sa tête, c'est « Oh, il me fait mal au cœur, mais d'un autre côté, c'est pas possible. » Vous voyez, c'est flou, son comportement est flou. Donc, ce qu'elle envoie à cet homme est flou et elle reçoit en retour le résultat de ce qu'elle envoie. Ne jamais oublier que les gens en face de nous sont des miroirs qui nous renvoient ce qu'ils perçoivent de nous.
D'accord. Alors oui, moi, enfin, d'un point de vue extérieur, puisque du coup ça fait quelques mois que j'entends ces récits, et moi j'essaye de, alors moi j'étais dans l'écoute et sans être aussi lucide que vous. C'est vrai que ça me parle beaucoup ce que vous me dites, et c'est vrai que ce serait beaucoup plus efficace de réfléchir là-dessus et de poser les choses comme ça. Je la conseillais un petit peu, mais pas vraiment du conseil. Voilà, c'était des échanges. Mais comment est-ce que, à votre avis, je pourrais l'amener à réfléchir là-dessus et à se poser ces questions-là?
Eh bien, vous pourriez, en lui disant... par quel mot tu pourrais clairement lui dire que tu n'as pas envie, que tu ne veux pas, que ça ne t'intéresse pas, l'amener à réfléchir à comment exprimer en attitude et en mots son refus des avances de cet homme. Vous voyez, l'amener à dire « Ok, comment tu pourrais faire ?» pour lui dire clairement, mais avec des mots gentils, qui ne vont pas l'agresser, qui ne vont pas l'envoyer dans les buts de façon violente, comment tu pourrais lui dire ce que tu as envie de lui dire, d'abord qu'est-ce que tu as envie de lui dire, comment tu pourrais le lui dire, à quel moment tu pourrais le lui dire, et travailler avec elle sur ces trois aspects-là. Et sur son compagnon, qui est donc aussi votre ami, j'imagine, puisque vous êtes proche du couple, vous me disiez.
Oui, bien sûr, on est devenus proches.
Oui, avec son compagnon, comment lui pourrait organiser une petite réunion à trois, c'est-à-dire entre son ami, ce monsieur locataire ami de la famille et lui-même, un petit moment où il poserait les choses clairement en disant « je ne suis pas dupe, je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur, je dis n'importe quoi, et Roger, je vois bien ton jeu, c'est pas la peine, je suis lucide. »
Oui, ça c'est un nœud du problème, parce que justement il refuse catégoriquement de s'en mêler, d'écouter et de prendre en considération les éléments, renvoyant à une situation qui lui est extérieure, c'est-à-dire que sa compagne vient lui dire « Ah oui, mais quand même, quand je suis allé le voir, ben, il était en caleçon ». Lui il va dire non mais il est chez lui vous voyez, alors que il n'a jamais reçu l'homme du couple en caleçon ou des choses comme ça, vous voyez, il y a des situations qui ne sont pas sans équivoque, et il va toujours prétexter autre chose à peut-être laisser sous-entendre que c'est un peu sa faute à elle aussi. Je sais pas trop. Peut-être je vais un petit peu trop loin, mais il refuse toujours d'arbitrer et de prendre son rôle, parce que tout le monde dans un couple doit se positionner à un moment donné sur quelqu'un d'extérieur qui a une influence ou pas, ou qui sous-entend des choses en mettant des limites, lui s'y refuse systématiquement.
Oui, alors là, si vous voulez, c'est un peu facile comme attitude, bien sûr, mais surtout, ça ne tient pas compte de la souffrance de sa compagne.
Et oui.
Le fait
c'est pour
de
ça que moi, ça me touche beaucoup.
Oui, je comprends. Dans ce cas-là, elle peut amener ce problème, c'est-à-dire il ne le fait pas pour lui, pour cet homme locataire, on va l'appeler comme ça, mais qu'il puisse trouver une façon d'intervenir pour elle, pour prendre en compte sa souffrance à elle et pour la protéger. Ce qui veut donc, c'est donc décaler le problème là où il est finalement, c'est-à-dire c'est le mal-être et la souffrance que ressent cette femme dans cette situation compliquée. Et si vraiment son compagnon ne veut pas, alors moi je lui recommanderais de refuser de voir cet homme seul. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça je lui ai souvent sous-entendu, mais sa bonne âme, sa bonté lui dit que y a du Covid, il y a du confinement, il a besoin de faire 3 courses, il a besoin d'être amené en voiture à droite ou à gauche.
Elle veut bien le faire, mais si son compagnon est là. Oui, bien sûr. Elle est prête à faire tout ça, bien sûr, mais dans ce cas-là, son compagnon est là. Et s'il ne veut pas être là, dans ces cas-là, il pose les choses à trois. Il tient compte de sa situation à elle pour libérer ce poids qu'elle porte et cette attitude de cet homme qui n'est pas juste dans cette histoire. Et dans ces cas-là, il intervient pour poser les choses. Alors, il n'est pas obligé de les poser violemment. Mais il doit les amener d'une certaine façon pour que l'autre homme sache qu'il n'est pas dupe et que ce serait bien qu'il arrête.
Bien sûr.
Mais de toute façon, dans toute cette histoire, il y a le sentiment d'une affirmation de la position de votre amie féminine. Vous voyez ce que je veux dire?
Elle a quelque chose
à travailler dans... On peut être bienveillant, on peut être gentil avec les gens, on peut, mais il ne faut pas se laisser manger par les gens. Il faut toujours mettre des limites et les limites peuvent être mises délicatement, avec gentillesse, mais elles doivent être fermes.
Eh oui. Mais je pense qu'elle l'avait fait. Après, il faudrait. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe et je pense que. Si le compagnon n'affirme pas aussi ses limites ou du moins un petit soutien à sa compagne, c'est ce qui fait un petit peu la porte ouverte à ce monsieur qui continue. C'est ça.
Et puis, là, sentant un peu mal à l'aise, fragile, il peut en jouer. Puisqu'il ne peut pas la voir en tant qu'amante, il peut jouer avec elle. Ça peut être sympathique pour lui aussi. Donc, c'est vraiment à elle. Je dirais que pour résumer, elle doit avoir une position claire d'elle avec elle-même. D'accord ? Ensuite, demander à son compagnon d'intervenir. Et s'il refuse, à ce moment-là, de refuser, elle, de voir cet homme seul.
D'accord. OK. Mais on va commencer là-dessus.
Rappelez-moi, Alex, ça m'intéresse vraiment.
D'accord, très bien.
D'accord.
Je vous tiendrai au courant.
Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée.
Merci à vous aussi.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, chers auditeurs, écoutez, je vous retrouve dans quelques instants avec Martial qui nous appellera pour nous parler du Covid et de tout ce que ça génère en lui. À tout de suite.
Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine.
Et nous accueillons Martial qui vient de nous rejoindre au standard de Sud Radio. N'hésitez pas à appeler également au 0826 300 300. Vous avez vu, chers auditeurs, ce soir c'est libre antenne. Donc j'accueille toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, les petites comme les grandes. Et c'est à Martial maintenant de nous expliquer où il en est. Bonsoir Martial.
Bonsoir. Alors vous accueillez aussi les immenses difficultés?
Bien sûr, bien sûr.
Alors,
vous n'aviez pas déjà appelé Martial?
Alors, pas dans votre émission, non.
Ah d'accord, mais je reconnais votre voix.
Ah, c'est possible. Ou peut-être une fois, mais il y a longtemps, dis donc, vous aviez de la mémoire.
Mais des fois les noms, pas toujours, mais les voix me marquent très, très souvent. Donc je suis ravie
de la mémoire
de vous
ou de la sensibilité.
Entendre.
Bon.
Bah écoutez, on appelle ça comme on veut.
Comment,
alors, dites-moi, comment allez-vous?
En fait, c'est alors bien, fort bien, ma foi. La vie est décidément belle. Mais immense parce que ça ne concerne pas que moi directement. Ça concerne, en fait, ben, les populations futures notamment. Et j'ai de grandes, grandes inquiétudes. Vraiment. Parce que, alors bon, voilà, je suis patron d'un lieu de perdition à Carbone, une cave à bière en l'occurrence.
C'est-à-dire
une cave à bière, une cave à bière, une cave à bière.
D'accord.
Non, pas, non, une cave à bière qui fait des concerts, des choses comme ça. Et donc, c'est un lieu culturel, mais un lieu de rencontre surtout. Mm-hmm. Et mon inquiétude, elle vient de cette expérience, parce que, et des expériences passées aussi, je me souviens bien quand ma génération a refait le monde, c'était dans ces lieux-là, ces lieux d'échange, les bistrots, les bars, les zingues, et les lieux et les concerts, etc. Et ma question, c'est que, en fait, là, pour les générations futures, j'ai trois filles, hein, en stop, donc, qui sont voilà, dans 23, 20, 19 ans, enfin, etc. Et je me pose des questions, des vraies, parce que, en fait, ces espaces de discussion, ces espaces-là où on a échangé, où on a refait des milliers de choses, quand disparaissent. Et donc, la question, c'est celle-ci, c'est les échanges d'idées, le volume d'idées, le volume de ce que ces générations vont pouvoir développer pour le futur, sont en train de diminuer aussi, puisque les échanges diminuent à mesure que ces espaces d'échange diminuent. Et mon inquiétude, elle est là. Comment va-t-on faire pour rattraper déjà ce tempérament, pour faire évoluer nos sociétés, puisque c'est les générations futures, les générations qui sont là à présent, qui sont là pour bouger les choses. Et s'ils n'ont plus d'espace d'échange, comment va-t-on faire? Et c'est une vraie inquiétude, vraiment. Est-ce qu'on a des idées pour échanger? Les réseaux sociaux sont complètement insuffisants. On le sait pertinemment, c'est parce que c'est extrêmement limité, à quelques mots, et tellement peu vrai. Et c'est vrai que, bon, quand on a une ou deux bières dans le cornet, on se libère un peu, on se
lâche,
soyons
honnêtes. Soyons absolument, honnêtes. Ça délie les langues. Martial,
surtout
quand vous dites
bière,
que...
Voilà.
que le temps perdu, je ne crois pas que nous perdions du temps actuellement. Le temps nous fige et nous oblige. Je crois qu'aujourd'hui, il est conseillé, je conseille en tout cas, de ne pas se retourner sur notre vie d'hier. Parce que hier est passé et que nous sommes actuellement en pleine transformation. Et pour que un nouveau monde émerge avec de nouvelles façons de communiquer, avec de nouveaux objectifs de vie, de nouvelles valeurs, un nouveau sens, il faut d'abord que quelque chose s'effondre. On ne peut pas faire du neuf sur de l'ancien. Il faut que l'ancien disparaisse d'une certaine façon pour que du neuf puisse émerger. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en changement. Elles sont en train d'évoluer, elles se transforment. Et on le voit bien, beaucoup de choses ne nous conviennent plus aujourd'hui, à la fois au sein de la société, mais également dans nos propres vies personnelles. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus, parce que ça ne colle plus à nos besoins, ça ne colle plus à ce dont on aspire, à notre vision du monde de demain. Donc tout ça est en totale transformation, et le Covid vient en rajouter une couche parce qu'il nous confronte à nous-mêmes en nous confinant, en nous obligeant à télétravailler. Donc il y a un retour à soi qui est très très fort actuellement. Et je crois qu'il faut vraiment garder espoir. Il faut actuellement beaucoup travailler sur soi, nettoyer ce qui ne nous convient plus. Et vous me parlez beaucoup des jeunes, mais vous savez, alors j'ai deux jeunes à la maison, j'ai deux garçons qui sont mes deux fils, qui sont de un jeune adulte. oui, on est tous confrontés à ça évidemment, et ça nous fait peur parce qu'ils ne fonctionnent plus comme nous. Et moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, Martial, mais moi, mes jeunes, ils ne se voient pas beaucoup. Ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux, d'une façon qui me sidère un peu, mais c'est la leur. Ils partagent beaucoup de choses. Alors, actuellement, bien sûr, avec le Covid, ils ne partagent plus beaucoup de choses en présentiel, mais ils n'ont jamais été aussi présents, dynamiques, proches les uns des autres sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est tellement loin de notre façon à nous de fonctionner adultes de 40, 50, 60 ans, qu'on est on regarde ça en se disant « mais les pauvres, ils sont en perdition ». Mais je me demande si c'est plutôt nous qui ne serions pas dépassés par tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui.
Alors, c'est évident, une certaine mesure, et vous prêchez un convaincu, bel enfant. Évidemment que le Covid aura la faveur d'un renouveau et que cette tour de Babel est en train de toute façon, j'ai l'habitude de dire que à force de foncer dans le mur, on allait tous finir maçon.
Oui,
c'est belle image. Bah oui, c'est ouais. Tellement évident. Et que oui, et quelque part, il y a ce virus va apporter son lot de prise de conscience. Ça, c'est évident. Ma question, elle est dans ce sens, mais elle va aussi au-delà. Et je me disais que ces lieux de rencontre, hein, donc le mien et plein d'autres, qui sont lieux de rencontre par excellence, c'est-à-dire du renouveau, les réseaux sociaux ne peuvent pas apporter ça, ne peuvent pas apporter la joie d'une rencontre opportune comme ça ou un allant ou quelque chose qui vient, le hasard, ce fameux hasard, le hasard c'est le nom que Dieu prend pour passer incognito, on le sait, et donc voilà, ces lieux comme ça qui créent ce qu'on appelle en parallèle le buzz sur les réseaux sociaux, ces lieux qui créent un ans sont appelés à s'éteindre. Je vois, on a des lieux qui s'éteignent.
Vous êtes sûr de ça?
Ah oui,
mais alors je suis d'accord avec vous que beaucoup vont s'éteindre, beaucoup vont fermer, il n'y a pas de doute. Avec la fermeture jusqu'en janvier, des bars, des restaurants, des lieux de rencontre, des cinémas, il va y avoir malheureusement beaucoup de victimes de toutes ces décisions. Néanmoins, les lieux vont se transformer. Ils rouvriront, Martial. Autrement, peut-être avec d'autres personnes, ils accueilleront un autre style de personnes qui communiqueront d'une autre façon également. Mais je dirais qu'on ne va pas murer ces lieux-là pour n'avoir que des relations virtuelles maintenant. Donc, dans ce passage que nous traversons, il va y avoir des cadavres. Il n'y a pas de doute et ça me retourne l'estomac de vous le dire. Hein. Je me mets à la place de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui voient leur job s'effondrer, leur affaire disparaître, et avec eux évidemment tout ce qu'ils ont construit dans le passé et les perspectives d'avenir qui sont extrêmement compliquées. Mais si vous parlez des jeunes, moi je crois que ces lieux vont rouvrir à un moment donné, avec peut-être d'autres personnes qui reprendront le flambeau et qui en feront autre chose, mais qui en font toujours, de toute façon, des lieux de rencontre. Vous savez, nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de contact humain, nous avons besoin de relationnel, nous avons besoin de... Tant que nous ne sommes pas transformés en robots et en intelligence artificielle, nous avons cette part d'humanité qui aura toujours besoin de s'exprimer.
Comme j'aime cette positivité, c'est beau à entendre. Hein.
Mais je crois qu'il est fondamental de rester optimiste. Et ça, pour l'avenir de l'humanité, nous devons rester absolument optimistes. Et quand c'est trop difficile pour certaines personnes, moi je propose d'aborder l'avenir comme les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire jour après jour. C'est-à-dire demain, le seul objectif, c'est de réussir demain. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place demain qui permettra de passer un jour de plus et de dessiner individuellement chacun notre avenir? Et vous savez, les sportifs de haut niveau construisent leur carrière ainsi. Ils se font un objectif, là en l'occurrence c'est sortir sans être mort de tout ce Covid, de toute cette période qui est extrêmement compliquée. Mais pour savoir où nous serons demain ou dans 8 jours ou dans 6 mois ou dans 3 ans, ça se construit aujourd'hui. Quelle décision je prends dans ma vie pour être encore vivant demain matin? Et laisser passer la journée, la construire, rester positif, chercher dans les moindres petites choses de la journée de quoi s'enthousiasmer, y croire. Et votre demain déterminera ce que sera après-demain, et après-demain déterminera ce que sera le jour d'après, etc., etc. Et il n'y a que comme ça qu'on peut rester optimiste. Détournez-vous aujourd'hui des infos en continu qui rabâchent tout le temps la même chose. Et comme ça fait vendre le négatif, eh bien, ça nous pousse à n'écouter que des choses négatives. Il faut s'extraire de tout ça. Martial, vous savez, je vous garde quelques instants encore, d'accord? Parce que j'ai envie qu'on continue et que vous me disiez ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous dis. Je vous dis à tout de suite.
Sud Radio, écoutons-nous, 21h-22h30, Muriel Hermine.
Et je dis tout de suite merci à Léa, à Philippe, à Marie-France, Daniel ou Simo de nous avoir rejoints sur le Facebook Live Sud Radio. Je suis avec Martial et nous parlons effectivement de cette crise que nous traversons. Martial qui est patron d'une cave à bière et qui sent bien que, évidemment, les choses sont extrêmement difficile pour les cafés, les restaurateurs. Et vous inquiétez beaucoup de l'avenir, Martial, et finalement des relations sociales que nous avons entre nous.
Oui, alors c'est ça, vous avez résumé. Mais vous avez dit de très très belles choses, vraiment et sincèrement, pour les jeunes, et c'est à eux à construire cet avenir, et on n'a pas son logiciel pour les décrypter, puisque c'est demain. Ils en sont déjà, eux, à demain, alors que nous, on est encore à hier. Mais il n'empêche que de cette expérience que je suis en train de vivre, après ces deux confinements, je perçois c'est un petit mouvement comme ça dans la trame où les gens perdent un peu ces habitudes sociales. Et non seulement je le sens, mais je le vois. Alors, les inquiétudes pour mon commerce, bon, bah, ça soit, hein, de toute façon, moi, je survivrai. La vie est belle, et puis si c'est pas ça que je fais, je fais autre chose. On l'aura compris, je suis un combattant, quelqu'un qui va de l'avant et qui a toujours des idées, plusieurs par jour, soit. Mais là, cette inquiétude, je la sens fondée. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans le relationnel des individus. Alors, ça transite énormément par les réseaux sociaux pour l'instant, vous parlez de vos jeunes, des miens, mais je pense, j'ai vraiment cette impression foncière qu'il va nous manquer un truc. Alors, même si j'ai pas le logiciel pour ce demain que les jeunes maîtrisent, j'ai cette impression profonde, quelque chose qui me gêne aux entournures. Le fait qu'on mette un masque pour nous faire taire. Moi, je suis passé au Covid, hein, j'étais positif. Bon, c'est un gros rhume. Alors, bon, soit, ok, j'en suis pas mort. Et y a assez peu de gens qui, alors, il y a à boire et à manger dans ce virus, évidemment, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de laisser les choses sur le carreau. Et parliez tout à l'heure de la télé, c'est dans le Canard Enchaîné, il y a deux gars qui parlent sur le trône des SDF, ils disent « Mais pourquoi on l'a pas, nous, le Covid ?» Et l'autre répond « Parce qu'on n'a pas la télé. » Et c'est vrai. Donc, il y a ce manque-là qui est là d'interaction physique, et c'est indéniable, hein, puisque quelque part on est empêché de ça. Et je pense que ça va laisser des traces durables, même si j'ose espérer, comme vous le disiez, et vous avez raison, que les jeunes vont devoir réinventer d'autres systèmes. Mais mince, le physique, quand même, c'est un câlin, un bisou. Toucher les jambes, je touche, alors touche pas à tout, évidemment, mais je touche le bras, je contacte les gens, et puis je leur dis que je les aime, et je les regarde dans les yeux. Mais mes clients, je les aime, si vous saviez, quoi. Et je les regarde dans les yeux, je les trouve beaux, et je leur dis, moi je parle d'amour, hein. J'ai mis à boire sa bière, j'en bois une avec lui déjà, et puis je parle d'amour, quoi. J'ai pas peur de ça, j'ai plus peur de ça, on va dire. Et ça, mince, qu'on le veuille ou non, il y a un truc qui est en train de... Ça me gêne.
Martial, vous savez, il y a Jean-Jacques qui nous a rejoint au standard de Sud Radio et qui avait envie justement de rebondir sur ce que nous échangions. Jean-Jacques, bonsoir. Allô Jean-Jacques.
Oui, vous m'entendez?
Oui, très Allô. Bien Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques, nous vous entendons très bien. Bienvenue.
Bon. Bienvenue.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Je crois que vous souhaitiez justement intervenir par rapport au témoignage de Martial.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais en même temps, je pense qu'il faut raison garder. Et finalement, cette histoire de Covid, je pense que c'est une manière d'élever la conscience des gens à leur insu. Je pense que d'une manière générale, les gens s'interrogent énormément à l'intérieur d'eux-mêmes et se demandent finalement, ce Covid qui nous est tombé dessus, peu importe de quelle manière, je pense que quelque part, quand vous parliez justement de l'évolution de la société, cette chose-là qui est arrivée, à l'insu, je disais tout à l'heure, mais c'est un moyen finalement qui n'a pas été prévu nulle part. Quand on parle de complotisme, je crois que tout cela n'a pas de sens, parce que, comme disait Lao Tse, il faut éviter de rendre le peuple intelligent, parce qu'un peuple intelligent devient très difficile à gouverner. Et oui. En ce moment, les gens font preuve quand même d'un travail intérieur que nous n'avions pas l'habitude de faire. Alors, Martial, qui tient un établissement de rencontres, de joie, sans l'offenser, mais un peu primaire, hein, au travers de l'alcool, mais avec de la
c'est
joie.
C'est pas primaire, c'est social. C'est pas
oui,
primaire,
social. Mais
voilà, de joie sociale, de joie de rencontre, de joie de oui. partage aussi.
Oui.
Et de non-solitude, je sais pas Martial, vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que ces lieux, les bars à vin, les bars à bière, sont des lieux où on va aussi quand on n'a pas envie d'être seul et qu'on a juste envie de partager à un moment donné quelque chose avec quelqu'un.
Si vous saviez le nombre de personnes qui justement viennent pour juste rencontrer, alors c'est pas des lieux où on s'alcoolise outre mesure, hein, vous savez que deux bières déjà on est calmé, c'est pas des alcools forts, hein, ça je me l'interdis, j'ai horreur de ça, mais c'est aussi des lieux où on fait des concerts, j'ai fait des concerts tous les samedis, donc c'est
oui,
culturel,
oui.
Il y a l'échange. Parfois un peu de théâtre, même parfois de la poésie. Donc, c'est des lieux d'inter-échange, quoi. Et voilà. Et avec leur disparition, parce que, bon, là, c'est une cave à bière, soit, mais je pense à tous les lieux culturels, hein. Je suis de ce céréal, je suis comédien dans le temps, donc je connais un peu ce milieu et animateur radio, tiens. Et donc, je connais un peu ce monde-là. Et je vois ce manque pointer à l'horizon. Alors, là-haut-dessus, oui. Il a raison, les peuples intelligents sont dangereux.
Vous le voyez pointer, mais il n'est pas non, là quand même, Martial.
Il n'est pas là.
Et je rejoins ce que dit Jean-Jacques, c'est que quelque part, ce Covid a révélé et a élevé les consciences. Il n'a pas généré tout
je
ça, il a, à mon avis, activé. Oui,
bien sûr.
Il a activé quelque chose qui était latent je crois, Jean-Jacques, que vous avez raison en disant qu'il nous oblige à élever notre conscience, à prendre conscience des choses.
Oui. Alors, moi, je suis plus âgé que vous, hein. Donc, moi, je suis de la génération des 68 ans, des premiers. Donc, voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des pays où, justement, la misère régnait fortement. Et donc aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'inquiétudes parce que peut-être ils ont le sentiment que leur confort matériel risque de diminuer. Et ça, c'est inquiétant, évidemment, quand on a été habitué à pas mal de confort, pas mal de luxe. Vous voyez, quand en Afrique, en Inde, dans les années 70, vous savez, c'était le Moyen-Âge, véritablement. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais malgré tout, on sent que notre bien-être, parfois, tient à pas grand-chose. Et ce Covid, finalement, nous a interrogés et nous a fait peut-être participer davantage à ce qui se passe dans le monde en général. On le voit bien. Et moi, je pense que, quelque part, ça sera quelque chose de positif. Du moins pour l'humanité.
Inch'Allah.
Mais... Inch'Allah. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Martial, mais moi je crois que le Covid a surtout révélé les immenses inégalités qui jonchent notre société française. J'irai même pas au-delà sur l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Mais il y a déjà au sein de notre pays des inégalités juste énormes. Mmh. Et dans une bonne partie de la population est dans un confort tout à fait honorable, voire luxueux. Et il y a un moment donné, il faut cesser de tourner la tête lorsqu'on voit le nombre de gens miséreux qui vivent dans leur voiture, qui n'ont plus d'hébergement, qui ont un salaire, mais pas les moyens d'avoir un hébergement. Donc de prendre une douche tous les jours, de pouvoir manger à leur faim. Enfin, notre monde tourne sur la, à l'envers. Et là, il y a besoin de resituer les choses aujourd'hui, de regarder et de partager, je crois.
Évidemment, Muriel, et merci de rebondir là-dessus. Quand je parle de mes inquiétudes, elles sont aussi là, parce que vous parliez des écarts, les écarts se creusent. Alors les pays qu'on fait Jean-Jacques, j'en ai fait quelques-uns, hein, Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Voilà, c'est pour l'Inde aussi, des choses, hein, les favelas, je connais. Et j'ai beaucoup donné, parce que j'avais les moyens de donner. J'ai fait des trucs de fou. J'ai fait plein de trucs assez intéressants pour autrui, parce que c'est mon engagement de vie, je suis quelqu'un d'engagé, on l'aura compris. Mais ça va devenir de plus en plus difficile, donc l'écart se creuse. Et là où j'avais un euro à donner, ben j'en aurais peut-être plus que 50 centimes. Je parle pas pour moi, moi ça va aller, j'ai pas peur de perdre. De toute façon, c'est qu'un détail de perdre, parce qu'on retrouve toujours autre chose. Mais il n'empêche que mes inquiétudes sont là. Alors, j'ai pas peur de mes propres inquiétudes non plus, et j'ai même pas peur pour les autres, parce qu'on trouvera des solutions, ça va de soi, mais il n'empêche que ces écarts se creusent, ces écarts culturels, de connexion, d'interconnexion entre individus, ces écarts financiers, donc, parce que nous, on s'imagine pas, mais on fait 3 repas par jour. Quand je dis ça à des gens, je dis, mais rendez-vous compte que vous bouffez 3 fois par jour, quoi. Et les gens n'en ont même pas conscience, c'est énorme, hein, genre ça, enfin. Qui sera d'accord avec moi.
Alors, Martial, est-ce que les écarts se creusent ou est-ce que les écarts se creusaient, que nous en prenons conscience aujourd'hui et que ça nous pousse à poser les actes que nous voudrons pour éviter ça? C'est aujourd'hui que nous pouvons changer les choses, c'est ça que je veux vous dire. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui déjà pour nous aligner sur notre foi. Enfin, quand je parle de foi, c'est pas religieuse.
Oui,
notre foi en la vie, à nous chacun, vous savez, c'est une personne qui est confortable en France. Prenez soin d'une personne qui va pas bien, mais on réglerait tous les problèmes. On rééquilibrerait les choses.
Une fois de plus, je ne suis pas convaincu. Sauf que, ce que je disais, là où moi je donnais 1 euro, et Dieu sait si j'en ai donné des euros, je ne vais pas pouvoir donner longtemps 1 euro. Et là où nous, on mange 3 fois par jour, il y a bien des pays, et Jean-Jacques l'a dit très très bien tout à l'heure, c'est là où ça va être compliqué. Et moi, où je pouvais m'occuper de 2 personnes hier, je vais pouvoir m'occuper que d'une personne. Et c'est là, quand je dis que ça se creuse, regardez les chiffres de l'OMS, ils sont affolants. Mais c'est affolant,
oui,
et que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, quand je dis que j'ai des inquiétudes, elles sont non seulement fondées, mais elles sont existentielles. Hein, là, c'est aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne bougent plus. Regardez les productions de blé, d'orge, enfin, etc. Regardez en géopolitique, de maïs. Regardez que les pays se gardent de leur production pour eux. Mais ça va être assez compliqué. Donc, on a intérêt de s'aimer, parce que sinon, une fois de plus, on aura dans le mur. Mais je pense que ça ne suffira pas. Pardon d'avoir des inquiétudes fondées, même si la vie est belle, mais l'homme est capable de vivre un enfer. Mais la vie, elle est belle, elle s'en fout, la vie, elle va perdurer. Mais quand même, l'homme est capable de s'en mettre plein la vue, hein, au niveau collectif, c'est assez moche, quoi.
Donc mes inquiétudes, Martial, sont là. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas changer le monde. Nous pouvons changer notre monde, c'est-à-dire notre monde intérieur déjà. Essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est déjà un chantier énorme à mettre en route. Et ensuite, plutôt que regarder le monde et l'autre bout du monde, c'est regarder juste au coin de notre rue et regarder déjà qui nous pourrions aider, là, juste devant la porte cochère de notre immeuble, au coin de notre rue, y a-t-il quelqu'un qu'on peut aider? Et si chacun d'entre nous abordait le monde de cette façon-là, eh bien, il y a toujours un voisin, même à l'autre bout du monde, de quelqu'un qui est pauvre.
Je suis bien d'accord avec
vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques?
Oui, je partage totalement ce que vous dites. Moi, je ne vais pas parler de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça serait trop long, mais je pense qu'apprendre à partager, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux enfants. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans notre éducation, on a oublié ce volet-là.
On ne nous l'a pas vraiment inculqué. Jean-Jacques, c'est pour ça qu'on ne l'enseigne pas à nos enfants, parce que ce n'est pas naturel.
Ce n'est pas naturel. Je ne sais pas. Tout dépend de l'éducation que l'on a reçue. Oui. Moi, je viens d'une famille qui était d'un côté une famille paysanne et de l'autre côté une famille intellectuelle. Eh bien, je dois dire que c'est la famille paysanne qui m'a le plus donné. Oui. Parce qu'à l'époque, on partageait, il y avait eu la guerre, mais pendant la guerre, ils avaient caché des soldats français qui s'étaient évadés. Vous voyez, quand vous grandissez dans un milieu comme ça, vous avez envie de donner plus tard. Mais si vous vivez dans une famille où l'égoïsme règne, où on ne pense qu'à soi, je vais donner un exemple et je veux condamner personne. Mais quand vous allez, par exemple, dans des vide-greniers et que vous voyez des gamins de 10 ans qui revendent les jouets qu'on leur a offerts, moi, pour moi, c'est choquant. Voilà. Parce que ça veut dire que les parents n'ont pas compris que peut-être ils auraient fallu dire à leurs enfants ce qu'on t'a offert, mais tu vas l'offrir à quelqu'un d'autre. Et tu vas pas essayer d'en tirer un profit. Et ça, c'est de l'éducation, tout simplement. J'ai beaucoup voyagé, et moi j'ai toujours partagé ce que j'avais avec ce que je rencontrais. Oui. Moi je pense qu'il faut éduquer les gens. Et aujourd'hui, ça manque énormément.
Bah écoutez, à nous de le faire, et je trouve merveilleux de pouvoir le faire par l'exemple. Pas par la parole, juste en disant « il faut faire ceci, il faudrait faire cela », mais être. Être cette personne de partage, être cette personne d'écoute, de bienveillance, de prise de conscience, et par soi-même et par son attitude, pouvoir éveiller les consciences des autres. Oui. Messieurs, merci infiniment pour ce merci temps d'échange qui était vraiment génial. Bonne route, Martial. Bonne route merci. À vous. N'hésitez pas à me rappeler quand vous allez rouvrir pour me dire un peu justement ce que vous verrez de changer et nous faire partager, j'espère, ce retour de joie et de plaisir que les Français, à travers votre lieu, auront retrouvé.
J'ai bien mieux, venez boire un coup.
Eh bien écoutez, je viendrai avec grand plaisir. Envoyez un petit mot sur la page Facebook Live de Sud Radio pour me dire où vous êtes et je viendrai vous faire un petit coucou.
Le garage carbone, vous allez voir, le garage carbone,
d'accord.
C'est facile à trouver.
Et y en a pas 30, c'est génial.
C'est un lieu de perdition, mais d'excellence et d'amour. Je le redis, hein, j'ai pas peur de le dire. Voilà.
Merci Martial.
Portez-vous bien.
Merci Jean-Jacques également. Oui. Merci d'avoir partagé votre point de vue. Vous avez raison, quand on a voyagé, qu'on est allé... découvrir d'autres contrées, d'autres civilisations, on a un regard forcément différent sur notre pays, la France, qui est un si beau pays, où Absolument. Nous sommes finalement tellement choyés que nous n'avons même pas conscience de la chance que nous avons.
Mais oui, il faudrait que les gens ouvrent les yeux un peu, et le cœur.
Absolument,
ça
absolument.
Fait déjà pas mal. Oui.
En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à me rappeler.
Ok.
Je vous souhaite une belle continuation et de belles fêtes.
Merci, vous aussi.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Chers auditeurs, mais voilà, il nous reste Amélie, qui sera notre dernière auditrice à passer dans Écoutons-nous. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci, c'est gentil. Oui, donc du coup, moi, la question que je voulais poser, c'était un peu... d'ordre général, je me pose la question comment faire de bons choix pour, à la fin de notre vie, nous dire qu'on a réussi notre vie, quoi. Voilà. Et c'est un peu philosophique.
Oui, mais c'est une excellente question et une belle approche de la vie. Amélie, qu'est-ce qui compte pour vous le plus ?
L'amour.
Oui, l'amour, d'accord.
Aimer, sinon ça n'aurait pas de sens, je trouve, la vie sans ça. Okay. Et puis, dans ce monde, la réussite sociale, elle compte quand même pour moi. J'ai été programmée un peu comme ça.
Quel âge avez-vous, Amélie ?
J'ai 29 ans.
Oui, vous êtes super jeune. Est-ce que vous vivez votre vie professionnelle ou est-ce que vous vivez la vie que vos parents ont rêvé pour vous ?
Non, je pense que je vis la vie pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous laissaient choisir ce qu'on voulait. Ouais. Mm-hmm. Donc, en fait, le problème de ça, c'est que quand on n'est pas satisfait de notre choix, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et c'est douloureux aussi.
Non. Non, Amélie, vous avez cru à un moment donné dans quelque chose, vous vous êtes investie, incontestablement, vous avez appris forcément, vous avez rencontré des gens, vécu des expériences, peut-être un peu compliquées et difficiles, et d'autres sûrement épanouissantes. Si aujourd'hui cet univers professionnel que vous avez choisi ne vous convient plus, c'est qu'il vous a apporté ce qu'il avait à vous apporter.
Oui.
Et qu'il est temps pour vous de rebondir. Alors, est-ce que vous en êtes là et que vous avez du mal à savoir vers quoi rebondir, ou est-ce que vous avez le sentiment, dès le départ, d'avoir fait des mauvais choix ?
Ouais, j'ai le sentiment d'avoir fait des mauvais choix, dès le départ.
Alors, pourquoi ?
Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas l'école.
Oui.
Et donc, j'ai voulu, en fait, mais je suis passionnée par une discipline qui nécessite d'aller à la fac.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai fait un compromis pour essayer de respecter ces deux parties de moi. Donc, j'ai choisi un cursus où il y avait un peu de psycho, mais qui était à mi-chemin, sans me permettant de pas trop d'études à faire. Oui. Et finalement, je me suis retrouvée à faire 5 ans quand même, que ça n'a pas été si fluide que prévu. Et donc, j'ai regretté parce que je me suis dit, bah, finalement, ça fait autant de durée que si tu aurais choisi ce que tu aimais vraiment à la base. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais qu'est-ce que vous aimiez vraiment à la base ?
J'étais attirée par tout ce qui était philosophique et psychologique.
Donc, vous êtes quand même sur la même voie. Simplement, vous avez voulu associer deux choses, c'est-à-dire pas trop d'école et malgré tout psycho. Effectivement, vous avez fait 5 ans, mais aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous êtes psychologue ? Vous êtes thérapeute ?
Ben non, justement.
Vous n'êtes rien de tout ça ?
Je suis travailleur social.
Vous êtes travailleur en fait. Social, d'accord ?
Ouais.
Ok.
Et donc, du coup, ça ne m'épanouit pas sur ce volet-là, parce que, en fait, je pensais qu'il y aurait plus d'aspects psychologiques, puisqu'on est dans la relation humaine, quand même. Et puis, oui, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je suis un peu déçue par rapport à ça.
Alors, comment, malgré tout, c'est ce sur quoi vous voulez persévérer ? Vous voulez carrément changer de domaine ?
Non, je voudrais devenir thérapeute, du coup.
Eh bien oui, mais alors, vous savez qu'aujourd'hui, et c'est la grande chance de notre époque, c'est que vous pouvez compléter votre cursus par des formations aujourd'hui, et des formations certifiantes, qui peuvent vous permettre de devenir thérapeute, psychothérapeute. Vous avez tout un tas d'outils. Alors, effectivement, si vous avez besoin de travailler pour gagner votre vie, vous pouvez continuer d'être travailleur social, mais en revanche, vous pouvez en complément, alors ça veut dire effectivement sur votre temps libre maintenant, mais vous rajoutez des formations certifiantes.
Ouais.
Mais il y a des choses géniales à faire actuellement, en sophrologie, hypnose, mais il y a un nombre de...
Je pense à la PNL.
La PNL, oui, très bien, ouais. Bien sûr. Et vous savez, alors en plus, actuellement, en raison du Covid, beaucoup de formations sont transformées en distanciel, ce qui veut dire que vous pouvez les prendre de chez vous sur des week-ends. Ça peut être un week-end par mois pendant 6 mois, par exemple. Ça peut être le soir, une fois que vous avez terminé votre journée. Et donc, vous continuez votre emploi. Vous vous formez en parallèle. Vous allez vous nourrir et vous pouvez en plus tout de suite intégrer ce que vous apprenez dans votre quotidien.
Dans le travail.
Voilà. Pour vous faire votre propre technique d'accompagnement. Et le jour où vous sentez vraiment prête, vous arrêtez votre job actuel et vous vous lancez à votre compte.
Ouais. Mais faut pas que je me dise que c'était un échec, ma première voix. Quoi.
Mais pas
en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et du coup, pas du tout. Si j'aurais choisi de suite le bon choix, mais aujourd'hui, je serais épanouie, en fait. Je ne vivrais pas ce que je vivrais.
Oui, mais rappelez-vous, Amélie, il y a quoi ? Il y a 10 ans de ça, c'est ça ? Il y a 10 ans, oui, vous ne vouliez pas aller à l'école.
D'ailleurs. Je me rends compte que je fais le même choix aujourd'hui.
Ouais.
Parce que je pourrais aller à la fac, mais non, j'ai trop un nom, en fait. Enfin,
oui, mais c'est vous. Ça, c'est vous, c'est votre aspect.
Je pourrais me forcer, hein, mais bon.
Donc, ce que vous aimez, c'est quelque part, c'est apprendre dans le concret, sur le terrain, au contact des gens. Et en faisant des formations, ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir tout de suite le tester, le mettre en pratique, voir si, de votre point de vue, selon comment vous le ressentez, ça marche pas, vous serez en formation, donc supervisé, donc vous pourrez échanger avec votre formateur, avec les autres personnes qui seront dans votre session de formation. Enfin, vous êtes quelqu'un qui apprenait et qui prenait du plaisir à apprendre dans le concret. C'est un atout vraiment important. Alors, pour démarrer, il vous a fallu quand même un diplôme, un minimum. Vous avez fait la fac, ok. Tout ça, c'est pas du tout perdu, Amélie.
J'ai fait un diplôme d'état de travailleur social.
D'accord. Mais c'est pas du temps perdu. Voyez cette période comme, à un moment donné, un passage qui vous permettait de concilier, de trouver la meilleure solution entre ce désir d'être sur le terrain et d'accompagner, et en même temps l'obligation, malgré tout, pour se lancer, d'avoir un minimum de diplôme.
Ouais.
Bon, eh ben vous avez réussi ça, mais votre vie n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Non, mais sans rire, c'est vrai.
Mais en fait,
et vous tombez au bon moment.
J'ai peur d'utiliser le même... En fait, d'utiliser le même raisonnement que j'ai eu quand j'avais 18 ans et que ce serait une mauvaise chose d'utiliser ce même raisonnement et d'être déçue à nouveau, en fait.
Ah, alors, revenez en arrière et revoyez l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment où vous avez décidé de ne pas vous lancer dans des longues études, etc.
Parce que c'était votre réalité. Je suis dans le même état aujourd'hui. Ouais, je ne veux toujours pas y aller. Encore plus même qu'à 18 ans, parce que j'en ai encore, j'ai souffert comme je me doutais au final.
Oui, mais Amélie, là aujourd'hui, vous n'êtes plus une jeune ado, mais vous êtes plutôt une jeune femme qui sait malgré tout ce qu'elle veut. Et regardez, vraiment, alors vous savez, je vous recommande d'écouter mon émission mercredi soir, parce qu'elle va être consacrée à comment dépasser ses peurs.
Oui, c'est ça mon problème aujourd'hui.
Ça peut rejoindre exactement.
J'ai peur de reproduire le même schéma et d'être à nouveau déçue. J'ai peur de trop m'investir et de pas avoir de résultats.
Rejoignez-moi dans l'émission Écoutons-nous de mercredi soir. En plus, j'aurai justement à mes côtés une femme géniale qui s'appelle Véronica Brown et qui est hypnotiseur et en même temps sophrologue et qui est formatrice dans ces deux domaines, et qui va expliquer justement l'intérêt de se former à ces techniques, qu'est-ce que ça apporte pour dépasser ses peurs. On va rentrer vraiment dans des choses extrêmement concrètes, avec des exercices concrets à faire, qui pourront être des outils pour vous, pour justement dépasser votre peur, et en même temps vous donner des pistes de réflexion pour... pas grappiller, mais aller chercher des formations supplémentaires pour atteindre votre but.
Je pense à la gestalt thérapie aussi, mais au final...
Exactement.
Mais ça coûte 25 000 euros, en fait. C'est trop cher.
Eh bien, écoutez,
par l'État, je ne peux pas demander de financement. Mon employeur.
Avec Véronica, on regarde tout ça mercredi soir. Connectez-vous sur Sud Radio. Appelez même si vous le souhaitez et on en parle. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Ce sera vraiment génial.
D'accord. Vous pouvez me redire ce qu'il faut que je me dise pour ne pas regretter.
Ce qu'il faut que vous disiez pour ne pas regretter, mais dites-vous qu'au moment où vous avez dû choisir, vous avez choisi ce qui était le mieux pour vous. Mais ce moment est terminé. Aujourd'hui, vous avez 10 ans de plus, des aspirations similaires, mais vous pouvez vous nourrir vous déjà.
Il y a
déjà.
Des solutions qui existent.
Ah, mais bien sûr. Et qui ne passent pas par la fac, qui ne passent pas par reprendre des études à temps plein. Il y a plein de possibilités.
Ouais.
Amélie, je vous dis à mercredi soir.
Merci beaucoup. À mercredi soir.
D'accord. Voilà, belle fin de soirée.
Oui, merci, c'est gentil.
Voilà, chers auditeurs, merci de nous rester fidèles. Vous pouvez retrouver l'émission dès maintenant sur sudradio.fr. Je remercie Léa, je remercie Lucille, la réalisatrice de cette émission, pour leur participation à mes côtés. Je vous souhaite une douce soirée. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye. À demain, 21h.